Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, aujourd'hui dans Au fil des pages, nous parlons d'un petit livre, mais d'une grande histoire, celle du catholicisme. Un petit livre parce qu'il est publié dans la collection Que sais-je, que tout le monde connaît, par les éditions PUF, publié et surtout rédigé par Yves Brulé.
Suffisamment évolué pour nécessiter une refonte de ce titre. Alors, j'ai été sollicité et j'ai accepté cette charge très difficile, un peu avec inconscience, je crois. Et donc, la difficulté, c'était de ne pas faire un récit de plus de 20 siècles d'histoire, parce qu'en 127 pages, comme vous l'avez dit, on peut raconter quelques petites choses. Mais j'ai cherché plutôt à problématiser, à chercher des grandes lignes, des grands thèmes qui réapparaissent dans les grandes périodes de l'histoire du catholicisme pour chercher des thèmes comme cela qu'on peut suivre de siècle en siècle et de millénaire en millénaire.
C'est en effet l'une des qualités de votre ouvrage que de nous permettre de nous repérer dans les courants du catholicisme, parce qu'il y a une unité doctrinale, il y a une unité religieuse, mais enfin, il y a tout de même des courants selon les siècles, on penche plutôt d'un côté ou plutôt que l'autre, et d'ailleurs notre siècle à nous, le 20e et le début du 21e, n'est pas absent de ces courants, on va certainement y revenir. Vous avez donc divisé votre « nous comprenons maintenant les liens qui vous unissent à lui ». Alors, on ne va peut-être pas faire le retour de l'histoire, mais parlons aussi de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le catholicisme, il a été confronté à beaucoup de courants, je le disais, le courant moderniste, le courant libéraliste, les totalitarismes. Comment a-t-il navigué dans tout cela? Comment s'en est-il sorti? Est-ce qu'il a réussi à préserver son unité dans tous ces courants? À votre avis?
Nous faisons la constatation que l'Église catholique existe encore avec une certaine unité à l'intérieur de cette structure et qu'elle a survécu au fond à 20 siècles d'histoire pour le moins mouvementée et qu'au fond l'Église catholique a vu tout naître et tout mourir, mais elle existe encore. Alors, pour l'époque récente, comment a-t-elle navigué dans les vicissitudes, notamment du 20e siècle? Eh bien, peut-être comme elle l'a fait dans les siècles passés, c'est-à-dire en s'interrogeant sur son identité et en essayant de conserver ce qui fait son identité propre. Et c'est ce que j'ai essayé de chercher dans les différentes étapes de son histoire. Il y a plusieurs points qui réapparaissent sans cesse dans l'histoire du catholicisme. L'idée d'une unité d'un magistère, de l'enseignement, avec une référence centrale qui est la papauté. L'idée d'une unité dans l'espace, c'est-à-dire que, au fond, l'Église est appelée à se répandre, donc il y a un effort missionnaire constant, et l'idée d'une unité dans le temps, et donc de transmettre non pas les choses absolument figées, mais de s'inscrire dans une tradition, c'est-à-dire une transmission d'un contenu, et au fond, ces trois unités fondent en quelque sorte une identité catholique.
Mais elle s'inscrit dans une tradition avec en permanence ce souci d'évolution, d'adaptation, ou est-ce que l'Église catholique était au contraire très figée autrefois? Elle a eu des périodes où elle était très figée et d'autres où elle s'est plus interrogée, elle s'est adaptée. Adaptée, peut-être pas le mot juste d'ailleurs.
Adaptée dans sa manière de s'exprimer et d'être dans le monde, sans doute, mais pas adaptée le contenu de la foi.
Pontifical, je crois qu'il est assez récent. Donc tout de même, l'Église modifie légèrement le contenu doctrinal dont vous parlez, dont vous dites qu'il a une espèce d'unité sur les deux millénaires.
Alors il y a un développement du dogme.
Un développement, mais pas une remise en question.
On ne remet pas en question un dogme qui a été
précédent.
Admis. Le dogme, c'est vraiment le niveau le plus élevé, oui. Si on veut, dans la hiérarchie des croyances. C'est un point considéré comme fondamental. Et effectivement, au XIXe siècle, deux dogmes ont été proclamés, l'Immaculée Conception en 1854 et l'infaillibilité pontificale en 1870. Mais à chaque fois, il ne faut pas s'imaginer que c'est le pape qui décide brusquement de proclamer quelque chose. Quand on regarde de près les procédures, l'Immaculée Conception ou l'infaillibilité pontificale ont existé pendant des siècles, se sont développées, ont été approfondies.
N'avaient pas été formulées.
Et ils ont été donc fixés en quelque sorte sous forme de dogme, mais après une tradition qui est souvent très très ancienne. Pour l'Immaculée Conception, par exemple, c'est une croyance qui remonte au milieu du Moyen-Âge, au moins.
Le catholicisme aujourd'hui, qui est minoritaire dans les régions où il est né, vous le signalez dans votre ouvrage « L'histoire du catholicisme » paru au PUF, pour que sais-je. Ce catholicisme, n'est pas non plus guère majoritaire dans les autres parties du monde. Néanmoins, il est devenu planétaire, si on peut dire. Il s'est étendu presque partout. Je crois qu'il y a encore quand même des régions où il n'est pas. Quel est le grand danger pour lui ? Et n'y a-t-il pas un danger d'éclatement, de dispersion de...
Bon, je pense qu'il y a des enjeux divers selon qu'on se trouve en Europe, en Afrique ou en Asie. Il est possible que dans le contexte de la culture actuelle, que ce soit dans les différentes parties du monde, je pense que le problème peut être un peu le même, c'est sans doute l'éclatement des croyances. Mais l'historien n'est pas non plus prophète, hein. Mais peut-être que le danger d'un éclatement des croyances, une sorte de religion à la carte, est sans doute un des dangers.
Les grands dangers. Et le fait de relativiser tout et de dire que finalement rien n'a de valeur supérieure à rien et que toutes les valeurs se valent, donc plus rien ne vaut rien. C'est peut-être ça qui est aussi un danger.
Alors c'est un danger. Bon, je crois qu'il y a dans l'Église des tendances qui ne sont pas aussi menacées par un tel relativisme, mais les populations catholiques, on a beaucoup de mal maintenant à les définir même. Qu'est-ce qu'un catholique ? Quel degré de pratique faut-il pour être considéré comme tout à fait catholique ? Donc là, je crois qu'il y a une grande diversité de situations, et même d'un pays d'Europe à un autre, on a là de beaucoup de variétés.
D'où la difficulté en plus pour vous de rédiger cet ouvrage dont je vais rappeler alors le titre « Histoire du catholicisme ». C'est un que sais-je, 127 pages qui nous font et qui nous offre une synthèse tout à fait remarquable de ces deux millénaires catholiques qui passent donc de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours et le monde chrétien médiéval, la naissance de la modernité et cette fameuse laïcité. Encore un tout petit mot pour nous dire que vous consacrez toutes vos journées à cette loi de 1905.
Oui, nous pouvons dire effectivement que le Premier ministre a confié à l'Académie des sciences morales et politiques la charge d'organiser la commémoration officielle de la loi de 1905, donc le pilier de la laïcité à la française, et que donc je suis chargé de mission auprès de cette Académie pour organiser ces manifestations, ces colloques, dans laquelle on verra que l'histoire peut servir à quelque chose pour la politique et puis pour la construction de l'avenir.
Yves Brulé, merci. Nous participerons ou nous assisterons à ces commémorations en vous remerciant de les avoir organisées. Merci d'être venu sur Canal Académie dans Au fil des pages et à bientôt sans doute.